Salut et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 6 d'ICI Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table aujourd'hui, Didier Cros et Frédéric Vernat. Bonsoir messieurs.
Salut Manu.
Bonjour Manu, Didier.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors un podcast qui exceptionnellement n'est pas enregistré le jour de la publication. Nous l'avons enregistré samedi soir après le match de l'ASM et cette défaite du côté de Pau. Défaite 22-11 pour ce retour du top 14 après cette première parenthèse Challenge Cup. Alors une nouvelle fois, les Clermontois se sont montrés inconstants lors de cette rencontre, ce qui n'est pas une première cette saison. Et c'est justement le thème qui va nous intéresser aujourd'hui. L'ASM Clermont peut-elle se sortir de son inconstance? C'est la question qu'on va se poser au cours de cette émission, une émission durant laquelle nous évoquerons également le prochain rendez-vous des Auvergnats. Ce sera ce vendredi 21h au Michelin face à Bordeaux-Bègles. Mais revenons au thème principal de cette émission. L'ASM Clermont peut-elle se sortir de son inconstance? Messieurs, un petit tour de table. Fred?
S'il faut trancher, je dirais non.
Didier?
Ça serait souhaitable, mais l'expérience et l'histoire montrent malheureusement que c'est un mal dont elle souffre de manière récurrente et depuis très longtemps.
Alors, on a l'impression, lors de ce match à Pau, on rappelle hein, cette défaite 22-11, un match qui reflète un petit peu la saison des Clermontois. Il y a eu de bonnes périodes, il y a eu de mauvaises périodes, de grosses erreurs, des maladresses.
Manu, l'ASM, c'est le film Un jour sans fin depuis au moins deux saisons. Moi, j'ai l'impression que chaque match, ou presque, à de rares exceptions près, on revit des scénarios qui se répètent sans cesse. Donc, on pourrait à chaque fois les résumer par une équipe qui est près, mais qui est si près, si loin quelque part. On sent qu'il y a du mieux sur certains secteurs par moment, qu'il y a des hauts, il y a des moments où on sent que la victoire est à portée. Je trouve que c'est le cas sur ce match qui est compliqué pourtant à Pau, mais il y a un moment de bascule en fin de rencontre, après l'heure de jeu, on a l'impression que l'ASM avance systématiquement dans les impacts. On se dit ça y est, là c'est le moment où l'ASM va finir par passer devant, et puis en fait ça n'arrive pas. Et je trouve que c'est un manque de maîtrise au final. Quand on n'arrive pas à gérer temps fort et temps faible, c'est que ça témoigne tout simplement du niveau d'un effectif, d'un mental, et c'est problématique.
Oui, parce que l'ASM était revenu hein, sur les talons des Palois en deuxième mi-temps, après un très mauvais début de deuxième acte, avec des mauvaises sorties de camp au pied. Il y a eu cet essai de Fourcade qui a relancé les Clermontois derrière, et puis cet essai Palois encaissé en fin de rencontre, hein, qui est venu annihiler les derniers espoirs de victoire. Malgré tout, l'ASM a eu la balle pour aller chercher le bonus défensif, mais encore une fois, il y a l'image de la saison, un mauvais choix de Moala qui part seul et qui finit en touche. Voilà.
Il y a eu cette dernière action qui a annihilé tous les efforts, mais on a senti à un moment qu'effectivement, dans les 10 dernières minutes, Clermont semblait capable de renverser la table. Mais encore une fois, il y a eu des moments clés. Moi, je repense aussi à cette touche non captée. Alors, la faute à qui? À Fourcade, une mauvaise annonce. Enfin bref, c'était un moment où Clermont était dans l'avancée, un moment où Pau était dans le doute. Et malheureusement, c'est une action cruciale qui a encore été mal négociée. Et on sait que dans
ces matchs...
Ce qui est
fou, c'est qu'on le sait. On le sait sur cette touche. On se dit, cette touche, il ne faut pas la rater. Comme tu dis, Didier, elle est cruciale. Et avant même de la jouer, on se dit... Ça sent pas bon.
Que dans ces genres de matchs, ce genre d'actions, elles sont déterminantes parce que... Il y en a pas 36 hein, à l'extérieur. Gagner, c'est souvent sur le fil du rasoir face à des bonnes équipes. Donc, il y a une ou deux actions qui vous permettent de franchir. Et là, il n'a encore pas saisi. Il y a cette fin de match qui est frustrante. Mais je relève aussi quand même que si on remonte le film, si on remonte le bobino, il y a une première mi-temps qui est indigne, quoi. Enfin, indigente.
Alors, un début de match.
Indigente.
Elle est meilleure qu'à Gloucester.
Elle est meilleure qu'à Gloucester, mais oui. dans un match où même Pau n'a pas été très bon. Quoi.
Beaucoup de maladresse hein, sur les 20 premières minutes, alors que les conditions étaient bonnes, pourtant en plus.
Clermont donne encore un essai, alors qu'ils n'étaient pas franchement dominés, mais ils donnent un essai sur ce ballon, sur cette touche dont on se demande comment. Ce qu'avait voulu faire Feinga encore. Là,
une touche perdue hein, dans les 22 mètres.
Sur un lancer improbable qui arrive dans les bras d'un Palois et après, succession de molles et puis essai, quoi, bing. Et...
Bah c'est rare, ouais, des sauteurs qui ne sautent pas et un lanceur qui lance son ballon quand même.
Donc on se retrouve à être mené 10-3, clairement on se retrouve à être mené 10-3 sans avoir été dominé, mais bon, pareil, en ayant fait des cadeaux avant l'heure, quoi, avant Noël. Mais aussi en montrant beaucoup d'imprécisions, de petites fautes, des petits en avant, qui les ont empêchés d'enchaîner des temps de jeu. Quoi. Ils ont quasiment rien montré dans cette première mi-temps. Donc sur une mi-temps et sur 20 minutes, voire 25 minutes, c'est compliqué de gagner un match aussi. Il faut quand même regarder les choses en face. Si on ne produit rien pendant une mi-temps, on se met en position, quand on est à l'extérieur, d'être en souffrance, de subir. Bon, il faut faire un match sur 80 minutes, il n'y a pas de tortiller.
Ouais, puis le début...
qui plus est à Pau, quoi, je veux dire, c'est pas Montpellier qui était dernier de la classe quand ils sont allés les affronter. Hein.
Et Pau qui a dominé le début de la seconde période aussi, et clairement s'est réveillé en milieu de deuxième mi-temps.
Au moment où on y croyait le moins.
Ouais. C'est peut-être le côté positif, notamment par rapport au match à Gloucester où tu étais Didier la semaine précédente.
Enfin, Gloucester, on peut même pas en parler. Je veux dire, c'était tellement un non-match, c'était tellement catastrophique.
Où les joueurs avaient...
Dieu merci, c'était mieux qu'à Gloucester, parce que sinon, alors là, il y aurait des très grosses questions à se poser sur tout le monde, et joueurs et staff compris. Quoi. Heureusement que c'était mieux qu'à Gloucester.
Mais c'est vrai, à Gloucester, c'est peut-être un des rares matchs où il y avait tellement de négatifs qu'il fallait vraiment lutter là pour trouver des points positifs. Je dirais que sur l'ensemble de la saison et sur ce match contre Pau, encore une fois, on a une colonne positive qui est assez remplie. Mine de rien, on a vu des choses intéressantes. Je trouve le banc, par exemple, a été une des satisfactions.
Mais justement,
ça
coïncidait justement avec le réveil clermontois dans cette partie.
Ouais, complètement.
Ils ont essoufflé,
ouais, ça a impulsé quelque chose et on a vu une ASM conquérante qui dominait chaque impact. Et ça s'est traduit d'ailleurs au tableau d'affichage. L'ASM est revenue à portée de fusil et malheureusement a raté l'occasion de renverser la table. Donc on voit des choses positives pratiquement à chaque match, mais c'est totalement annihilé par des points négatifs systématiquement. Alors c'est des premières mi-temps ratées et puis des secondes mi-temps qui sont meilleures, ou inversement, ou des bouts de match, ou des séquences, ou des cadeaux, c'est le principe même de l'inconstance. Manu, ta question, tu parlais de l'inconstance dans la saison, mais l'inconstance, elle est au cœur des matchs.
J'oserais ajouter que c'est la caractéristique d'une équipe moyenne.
Oui, puis effectivement, puis c'est vrai
les bonnes équipes ne sont pas inconstantes sur une saison. Les bonnes équipes, ça leur arrive de faire des mauvais matchs, comme à tout à chacun. Ça leur arrive de faire des bons matchs et de les perdre. Le problème de l'ASM, c'est que depuis trop longtemps, elle fait des matchs moyens et elle les perd trop souvent, et quasiment systématiquement à l'extérieur. Donc...
Puis quasiment, c'est des copier-coller. Enfin, on prend Oyonnax, on prend Lyon, on prend le match à Pau. On a l'impression d'assister à des copier-coller, comme disait Fred. Alors, comment expliquer, justement Christophe Furios, cette semaine, évoquait l'aspect mental. Il a dit, après le match à Gloucester, que le problème, ce n'était pas la conquête, c'était la mentalité. Alors, des propos qui ont été corroborés un petit peu par Étienne Falgoux, derrière, qui confirmait effectivement que l'aspect mental pesait. Est-ce que le mental peut expliquer justement cette inconstance ?
Le mental, ça peut expliquer qu'une équipe passe à travers sur un match, bon, parce que mal préparée, Mais à mon sens, le mental, ça ne fait pas tout. Quoi. Dans le sport de haut niveau, il faut espérer que les joueurs... et d'autres leviers à actionner que le mental. Il faut qu'il y ait techniquement des ressources, collectivement des clés, des réponses à des questions, à des situations. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas à l'ASM. Quoi. Alors le mental, c'est vrai que c'est important, c'est vrai, mais on ne peut pas toujours actionner le levier du mental. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quoi. Une équipe de haut niveau ne fonctionne pas uniquement avec le mental. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Sur une longue saison, ça serait, on peut pas, c'est pas possible. Il le faut évidemment. Il faut que les joueurs soient aient envie. Mais bon, Dieu merci. Enfin, l'envie, ils l'ont. Je pense que c'est même pas. On peut pas dire qu'ils mouillent pas le maillot. C'est pas la question. Si c'était que ça, ça serait très facile.
Oui, oui, mais effectivement, oui.
Moi, je trouve que je sais pas si c'est le mental. Le mental, ça, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu fluctuant des degrés. D'hiver, il y a toujours une question de curseur malgré tout et d'engagement. Le rugby, c'est un sport d'engagement, donc on sait bien que le curseur n'est pas toujours mis au même niveau. Mais c'est plutôt le caractère plus que le mental, c'est le caractère. Et le caractère, ça, c'est les joueurs l'ont ou l'ont pas. Hein. C'est difficile de développer du caractère chez les joueurs et j'ai l'intime conviction que c'est un groupe qui manque de caractère au final, individuellement. Je trouve que l'absence. Ou en tout cas le manque de leader, puisque l'ASM en a quand même récupéré quelques-uns à l'intersaison, mais le manque de leader dans cet effectif est un témoignage justement de cette absence de caractère. Donc il y a des bons joueurs, je crois pas qu'il y ait des joueurs de grand caractère, ça c'est un vrai problème.
Mais Christophe Furios l'avait souligné après le match à Gloucester, justement où il y avait pas mal de cadres qui avaient été absents sur cette partie-là, qui n'a pas fait le déplacement, et c'est vrai, c'est le match le plus raté, le moins abouti, dirons-nous, des Clermontois cette saison. À Pau, il y a la sortie assez précoce aussi d'Urda Pileta, qui s'était blessé à l'épaule. Est-ce que, effectivement, quand les leaders ne sont pas là, est-ce que, il y a un manque de confiance derrière? Et puis, est-ce que les autres joueurs ont peur, peut-être, de prendre des initiatives de...
À Clermont, ça se voit forcément un peu plus que dans d'autres équipes du haut de tableau. Forcément, quand vous perdez vos meilleurs joueurs,
Les meilleurs joueurs, on est forcément moins bons. Heureusement, sinon, ça ne serait pas.
Dans un effectif qui, de manière générale, est quand même moins qualitatif et moins quantitatif que d'autres grosses écuries du top 14, nécessairement, ça a plus d'impact. C'est surtout ça.
Mais l'absence, la sortie sur blessure d'Urda Pileta précocement a eu une influence indéniablement, forcément, ne serait-ce que, on peut imaginer que dans la réussite au pied, où on pense qu'il a un pourcentage statistiquement qui est meilleur que celui de Belot, donc clairement aurait été forcément un peu plus près au score, et ça peut changer aussi. Mais l'absence, la sortie d'Urda Pileta n'explique pas les mauvais lancers en touche.
Oui.
C'est pas lui qui en est la cause. Enfin, c'est pas son absence qui en est la cause, par exemple.
Ni les entrées en mêlée précoces. Plusieurs fois, ils se sont fait sanctionner.
Ces petits détails là qui font que. On est dans une période sur un temps fort et on se retrouve à prendre un compte de 50 mètres ou à perdre l'avantage du terrain et reculer de. C'est ces petites choses aussi qui font que.
Alors. Est-ce que ça peut se corriger avec les résultats? Si les résultats sont là, la confiance va revenir aussi. Et on sait que quand la confiance est là, les attitudes ne sont...
Victoires amènent les victoires. C'est la palissade de dire ça, évidemment. Mais on a eu un contre-exemple aussi à ça cette saison assez, assez criant. C'est la défaite contre Toulon qui a suivi la victoire à l'extérieur contre Montpellier. Cette victoire à l'extérieur, après laquelle l'ASM courait depuis presque un an, c'était vraiment en santé.
Ouais, puis qui revient dans toutes les conversations en plus.
Qui faisait basculer l'ASM dans une autre dimension au niveau du classement. Il y avait des perspectives qui pouvaient s'ouvrir grâce à ça. Il y avait juste à confirmer derrière, face à une équipe de Toulon qui plus est remaniée. Il y avait de la qualité aussi sur le terrain, mais remaniée, l'ASM n'a pas été capable de confirmer.
Et quand on voit le calendrier qui se profile avec l'UBB, avec le Stade français, il y a de quoi s'inquiéter.
Jusqu'à la fin de la saison, ouais. De toute façon.
Si, selon vous, si l'ASM ne règle pas cette inconstance, est-ce que le top 6 s'envolera automatiquement?
Évidemment. C'est que en gagnant en consistance, en gagnant en régularité, en gagnant en précision, que clairement arrivera à s'intégrer durablement dans le top 6 et à finir dans le top 6.
Moi, c'est pour ça, quand je répondais à ta question, j'ai une vision assez pessimiste des choses jusqu'à la fin de la saison. Moi, je trouve qu'au final, ce qu'on voit, c'est assez légitime compte tenu de l'effectif aujourd'hui de l'ASM et de la qualité des joueurs. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Et je trouve qu'au classement, l'ASM est à sa place. Alors, elle pourra peut-être accrocher accrocher un top 6 en fin de saison, parce que c'est d'une telle densité au milieu, il y a tellement d'équipes qui peuvent prétendre à la qualification que à une victoire près, effectivement, on peut se retrouver, c'est le cas au classement aujourd'hui, hein, entre la 10e et la 3e place, il y a un mouchoir. Donc l'ASM est dans cette catégorie-là, mais intrinsèquement, je pense que l'ASM est à sa place autour de cette 6e, 7e, 8e place peut-être.
Parfait, ben merci messieurs d'avoir répondu à cette question. On va enchaîner avec le deuxième thème, on l'évoquait rapidement il y a quelques instants, sur le calendrier à venir. Donc on évoquait cette réception de l'UBB, puis ce déplacement au Stade Français. Vendredi, ce sont donc les joueurs de Bordeaux-Bègle qui vont se présenter sur la pelouse du Michelin. Messieurs, c'est pas forcément l'adversaire rêvé, parce qu'en plus on sait que l'ASM, ben, forcément, n'a pas le droit à l'erreur à domicile. Et quand on voit la série, l'UBB, ça reste sur une série de 5 victoires de suite. On sent que la machine bordelaise est lancée là quand même.
Ah oui, là c'est clair. Bah, on les avait placés quand même en début de saison, compte tenu de leur l'effectif sur le papier, c'est assez légitime de les voir candidater. Alors, je parle même pas d'une qualification en phase finale. Je parle carrément un titre de champion de France. Hein. C'est quelque chose d'envisageable quand on a des lignes arrière comme les leurs. C'est évident. Il y a un effectif d'une densité folle et effectivement, on a l'impression que le retour des internationaux a aussi permis d'enclencher une nouvelle dynamique avec un staff qui a l'air aussi de mettre sa patte et ça régale en ce moment du côté de la Gironde.
Ouais, c'est une équipe complète. Fred parlait des lignes arrière, mais devant c'est solide. Yannick Bru fait un très bon travail aussi, comme le disait Fred, qui commence à prendre, hein, la mayonnaise prend. C'est assez impressionnant là, ce que proposent.
Ils n'ont pas eu à forcer beaucoup vendredi
et contre Lyon,
vendredi contre Lyon, puisque en une mi-temps c'était réglé, enfin après le carton rouge du Lyonnais. Bon, après on sait pas, au jour d'aujourd'hui on ne sait pas quelle équipe va aligner Bru à Clermont, hein, s'il va faire un petit turnover ou s'il va amener la Dream Team. Donc ça sera aussi un élément à prendre en compte dans l'opposition. Il y a un autre élément qui pourrait aussi les jouer en défaveur de Clermont, ce qui a fait sortir Ségon Urio, c'est le temps de préparation et de récupération inférieur pour Clermont. Hein, qui aura
ça
que
peut jouer,
deux jours.
Ça, messieurs.
Ah, je pense que ça peut jouer un peu quand même, hein. dans ces moments-là, ça peut jouer un peu en termes de récupération. Bordeaux a joué à domicile, Bordeaux a joué face à un match facile quand même à la sortie. Ils ont pu très rapidement faire du turnover, faire rentrer du banc, donc quelque part économiser des joueurs, hein, alors que l'ASM jouait 24 heures plus tard.
Ça intervient dans une période très particulière où les joueurs ont donné plus de jours de repos aux joueurs qu'aux défaites, ce qui est assez légitime.
Mais
du coup, moins de préparation et forcément un jour de préparation de moins que l'adversaire.
Sur une semaine qui est déjà courte.
Voilà.
Mais malheureusement, enfin, j'ai presque envie de dire, je ne vais pas prendre la défense du diffuseur, mais chaque saison, de toute manière, il y a toujours des...
Mais c'est un élément factuel. Quoi. Après, on peut s'en servir d'excuse ou pas, mais c'est un élément factuel qui n'est pas en faveur de Clermont.
Ça. Alors Christophe Furios a bien précisé, ça doit resserrer le groupe et non pas nous servir d'excuse.
Après, voilà. C'est un peu de la communication, on le met en avant et on se dit quand même, on allume un contre-feu pour dire, bon, on ne va pas s'en servir. c'est de la communication.
C'est une bonne guerre.
Saurait gérer la communication, Christophe Furios.
Oui.
Mais ce qui est sûr, c'est que l'ASM, une nouvelle fois, après avoir perdu à l'extérieur, se retrouve dos au mur. Et il n'y a pas d'autre choix que de décrocher une victoire contre l'UBB à domicile.
Alors, ça avait fonctionné face au Racing. Là, c'est un nouveau encore Cador qui se pointe. Est-ce que, justement, sur l'aspect psychologique, Le résultat, il faudra voir l'équipe effectivement alignée aussi en face, mais est-ce qu'une victoire permettrait quand même de montrer une certaine force de caractère du côté clermontois, parce qu'on peut gagner un match sous pression, le match face au Racing, quand ça se reproduit quand même dans la durée, ça montre, ça signifie quelque chose.
Le caractère à domicile, clairement, on a rarement manqué. Hein. Ça, on peut pas.
C'est vrai.
On peut pas leur reprocher ça. Hein. Non, c'est vu la situation, vu leur passif, leur difficulté à gagner à l'extérieur, la victoire est impérative. Si s'ils perdent un deuxième match au Michelin, alors qu'on n'a pas attaqué encore la phase retour, et ils se mettent un boulet énorme à leurs deux pieds. Hein. Enfin,
surtout quand on voit en plus le parcours.
Ce sera pas rédhibitoire, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, comme on dit, tant de points à prendre, patati patata. Mais là, ça deviendra extrêmement compliqué, d'autant que tu enchaînes après avec le Stade français, où, bon...
oui, mais surtout quand on voit le parcours et le visage affiché par les Clermontois à l'extérieur.
Pour rester dans le course, pour rester dans l'envie, si j'ose dire, la victoire est déjà impérative. D'autant que tu n'as rien ramené de peau, en n'ayant pas fait un mauvais match, mais tu ne ramènes rien, t'es bredouille.
C'est le problème, ça, d'ailleurs, aussi. On le souligne peut-être pas assez, on parle de la défaite, mais il y a aussi l'absence de bonus. C'était déjà le cas à Toulouse, après, alors, dans des circonstances un peu différentes, l'équipe avait beaucoup tourné, mais il n'empêche, la SM avait sorti un super match à Toulouse, et puis...
Donax 0, Lyon 0.
Un déplacement à 0 points, en fait, sur une saison, ça compte beaucoup, c'est points
de. Et c'est pas la première saison, en plus. Encore une fois, je vais reprendre tes propos du début d'émission.
Complètement.
Mais les saisons se suivent et se ressemblent, pour les Clermontois.
Et là où tu as raison, c'est qu'à domicile, je dirais depuis un an, depuis l'arrivée de Christophe Furios principalement, on constate quand même un petit supplément d'âme supplémentaire, il y a un peu de sérieux supplémentaire, il y a un peu de constance supplémentaire, ce qui a été criant sur, je me souviens des victoires contre La Rochelle cette saison, la victoire plus récemment contre le Racing, voilà, c'était des victoires de caractère malgré tout. Je disais que l'effectif en manque, mais il est capable
sur certains matchs
d'en montrer
sur l'effectif
certains matchs,
le peut.
Mais essentiellement à domicile.
Parfait. Eh bien, merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. D'ici là, belle semaine à toutes et à tous. Salut.
Au revoir et bonne fête à tous.